chers auditeurs, bienvenue à Radio Grand Ciel dans notre émission consacrée à l'art et l'histoire et qui s'appelle aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, d'art et d'histoire. Car nous allons vous faire découvrir des personnalités de l'histoire et qui nous racontent des histoires. Et aujourd'hui, nous sommes dans le studio de Chartres avec le père Adalbert Chalère, qui est un membre d'une société de missionnaires et qui est venu de la Forêt-Noire, où il est curé encore aujourd'hui malgré son grand âge, qui est venu à Chartres parce que cela fait plusieurs dizaines d'années qu'il se rend à Chartres pour en pèlerinage, et nous allons découvrir comment il a pu apprendre si bien la langue française. Nous avons également à nos côtés un professeur d'allemand, Jean Mercier, qui est membre de l'association Les Amis de French Talk, car nous allons sans aucun doute également évoquer la mémoire de French Talk. Bienvenue dans le studio, bienvenue chers auditeurs dans notre émission. Cher père Adalbert Chalère, dites-nous quel est votre âge et nous serons heureux de découvrir que...
Alors, je suis né en 1927, comme le pape est noir, ça vous donne une idée de mon âge. Lui, il est né au mois d'avril, au mois du février. Alors j'ai 2 mois plus d'expérience de la vie que le pape Benoît.
Et vous êtes né en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne?
Oui, à Fribourg. Ma mère avait 40 ans. À ce temps-là, on a été élevé à Titisee-Neustadt, mais pour la naissance, on est allé à Fribourg, à Freiburg. Je suis né à Freiburg.
La première question que nos auditeurs vont se poser, comment est-ce que vous avez pu apprendre la langue française si parfaitement?
Je suis membre d'une congrégation missionnaire. On avait pas mal de collèges en Allemagne, et alors on avait besoin de professeurs. Et je suis ordonné en 1951, j'avais un âge assez jeune, n'est-ce pas, comme 24 ans, comme les papes noirs aussi. Et comme ça, alors moi j'ai voulu travailler dans les missions, au Japon par exemple, ou à l'Inde, mais alors mes supérieurs ont voulu me faire professeur. Alors on m'a fait étudier le français et l'anglais.
Donc, comme je me permets d'établir un parallèle avec French Talk, qui très jeune également a été ordonné prêtre, qui également a souhaité se rendre en France et œuvrer à l'étranger, comme vous. Et donc, finalement, vous êtes resté en Allemagne, mais vous avez enseigné. Quelles étaient les matières que vous avez enseignées dans ces collèges en Allemagne?
Alors, on m'a appelé enseigner le français à Bad Ribourg, c'est à l'est de la Westphalie, pas loin de Paderborn. Alors, c'était l'année 68, l'année de la révolte. Pas seulement en France avec Cohn-Bendit, mais aussi en Allemagne. Et alors, on m'a appelé. J'ai voulu faire autre chose, mais on m'a appelé à Bad Ribourg, c'est pas loin de Paderborn. Et à Paderborn, il y avait la fraternité sacerdotale Saint-Libois. Alors, j'ai joint la fraternité Saint-Libois. J'ai fait la connaissance des prêtres du diocèse du Mans. Je suis allé au Mans aussi, pour travailler pour la pastorale.
Je pense que c'est à Paderborn que vous avez dû entendre parler du père Franz Stock.
Bien sûr. Alors d'abord, j'ai participé aux activités de la fraternité Saint-Libois, mais plus tard, on a découvert l'abbé Franz Stock aussi. Et j'ai aussi joint le comité Franz Stock en Allemagne. Et comme ça, j'ai participé aux activités du comité et aussi de la fraternité Saint-Libois.
Et quand est-ce que vous êtes venu pour la première fois à Chartres?
Alors, on m'avait étudié, moi j'avais des très bons supérieurs, n'est-ce pas? Mon provincial supérieur a aussi enseigné le français et l'anglais, il m'avait étudié les deux langues. À mon avis, il était l'instrument ou l'outil de la divine providence. Il m'a envoyé à Würzburg, j'ai voulu étudier à Freiburg, non il n'a pas voulu, mais Würzburg était très 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 bien parce que la fraternité des petites sœurs de Jésus avaient une fondation à Würzburg. L'évêque Döpfner les a appelés à Würzburg. Et comme ça, j'ai étudié le français à Würzburg. Et quand j'ai passé mes examens à Lens en 1957, J'avais 30 ans. J'ai pris part au pèlerinage des étudiants de Paris à Chartres, à l'âge de 30 ans. Alors, à 30 ans, j'étais la première fois à Chartres. On est logé dans la crypte.
Et donc, vous êtes revenu régulièrement à Chartres?
Oui, mais c'est ça.
Seul ou en groupe avec des paroissiens?
Ah aussi.
Parce que vous êtes...
Finalement, oui. Parce que je suis plusieurs fois, je suis revenu. Parce que pour moi, Chartres est une source de spiritualité et de créativité aussi. Alors ici, on reçoit tas de choses que l'on ne reçoit pas dans d'autres régions, d'autres endroits. C'est comme ça, je suis revenu. Aussi, cette année, c'est aussi pour la gratitude pour tout ce qu'on a reçu au cours des années, n'est-ce pas?
Car en 2014, vous avez célébré le 60e anniversaire de votre sacerdoce.
Oui.
60 ans de sacerdoce. Et vous célébrez toujours la messe, vous êtes toujours un curé à Saint-Blasien-Menzenschwand.
Oui, c'est ça.
Donc, vous allez célébrer tous les dimanches.
C'est une exception, parce qu'à mon âge, n'est-ce pas, pratiquement, les prêtres ne travaillent plus, n'est-ce pas, ils sont en pension. Mais on m'a laissé travailler jusqu'à maintenant. Mmh. Maintenant, alors l'évêque s'est adressé à mon supérieur provincial et on a dit il faut maintenant cancel le contrat. Finir avec...
Tout de même, on vous a dit, peut-être vous pourriez à 85 ans prendre votre retraite méritée. Alors, vous êtes venu à Chartres et sans doute à la première visite, est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de découvrir le séminaire des Barbelés? Vous saviez qu'il existait, mais il n'était pas encore accessible.
Quand j'étais à Chartres, bien sûr, on était allé au camp des Barbelés. Aussi, vous voyez, on a sauté des faits qui sont importants. Alors, il y avait le traité franco-allemand. Et les professeurs ont eu tas de privilèges pour les jeunes, n'est-ce pas? Alors, à ce temps-là, on a organisé des séminaires pour les prêtres français et prêtres allemands, et plus tard pour des laïcs aussi, des religieuses. Comme ça, j'étais à Berlin une fois. On a dit la messe à Regina Martyrum, à l'est, pas loin du camp de Blitzensee, de la prison de Blitzensee. Alors, et le père Glosset a prêché. Il a dit qu'il était élevé dans un esprit hostile envers l'Allemagne. Et son grand-père l'a emmené à la frontière. Il lui a dit « crash » maintenant, n'est-ce pas? Ce sont les ennemis à l'autre côté, n'est-ce pas? Et lui, alors comme ça, j'ai fait la connaissance avec Pierre Clousset, et avec d'autres personnalités, Franz Hama, un franciscain, et comme ça, j'ai pris goût, n'est-ce pas, à cette activité du Franz Stock aussi.
Voilà, je pense que Jean Mercier pourra peut-être ajouter pour nos auditeurs qui découvrent Franz Stock, qui était le père Clauset.
Le père Clauset était curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Rechèvre et il a fait la connaissance de Franz Stock, Mathilde, donc un dimanche après-midi, où se promenant près de l'actuel donc séminaire des Barbelés, il a vu une chapelle en bois. Il en avait besoin pour sa paroisse et c'est comme ça que lui, le Lorrain élevé dans la haine de l'Allemand, a découvert un Allemand qui était complètement contraire à cela.
Et donc il a rédigé un livre sur la vie de Franz Stock et la vie de sa paroisse à l'église Rechèvre.
Oui.
Sur Jean-Baptiste de Rechèvre. Poursuivons avec le père Adalbert Schaller, qui est curé en Forêt-Noire dans la commune de Saint-Blasien-Menzenschwand, qui est venu à Chartres cette année 2014 pour... n'espère pas pour la dernière fois, mais comme il a un grand âge, il est né en 1927, il veut rendre un dernier hommage à Franz Stock. Et il admire ce prêtre parce qu'il s'est donné, comme vous le faites encore, père, entièrement à ses séminaristes dans le séminaire des Barbelés. Alors, vous avez donc, en 1963, fait la connaissance du père Clauset. qui a donc sans doute contribué à vous faire découvrir encore plus.
Mais l'Évangile de l'Enfer, n'est-ce pas, ce livre, si on a ce livre avec un intérêt énorme, n'est-ce pas. Et comme ça, ça m'a encouragé de faire le plus possible pour l'amitié franco-allemande, n'est-ce pas. Alors, dans les écoles où j'étais, on avait du jumelage, n'est-ce pas. Le jumelage, par exemple, à Bad Ribourg, un jumelage avec Lannion, en Bretagne. Et chaque année, je suis allé à Lannion avec mes élèves, n'est-ce pas. Et comme ça, on avait créé vraiment des amitiés entre français et les Français allemands.
Alors, vous nous avez apporté de La Forêt Noire, un enregistrement en CD dont on va écouter une petite pièce. C'est Aiko Maria Yoshimura, une japonaise, qui a joué sur l'orgue de votre église à Mensenschwand. Oui. Écoutons une petite pièce de Joseph Haydn, Le Vivace. Oui. Nous sommes dans l'émission d'art et d'histoire avec le père Adalbert Schaller qui est venu de La Forêt Noire faire un pèlerinage à Chartres. C'est un père d'un grand âge, il a 85 ans, il a fêté en 2014 son 60e anniversaire de son sacerdoce et nous sommes avec Jean Mercier, membre de l'association Les Amis de Franschtock. Et nous parlons de la vie d'un prêtre qui aujourd'hui encore célèbre les messes pour pallier à l'absence de beaucoup de curés dans nos paroisses actuellement. Et le père Adalbert Schaller est membre d'une société de missionnaires qui s'appelle la Société des Steyler. Et les trois lettres SVD, il va nous les expliquer parce qu'elles sont généralement collées à son nom.
Alors, c'est Societas Verbi Divini, Société du Verbe Divin. Alors, le fondateur était un Allemand, Ampas Renani, et vers la fin du 19e siècle, on avait un esprit missionnaire, n'est-ce pas? Il y avait d'autres ordres, comme les Spiritains, comme il dit, et d'autres congrégations, White Fathers, et alors il a voulu faire quelque chose pour les missions. Alors, il a voulu fonder seulement une maison pour les missionnaires. Et comme ça, c'était à l'époque de Bismarck. Alors, une fondation en Allemagne n'était pas possible. Donc, il a dû aller aux Pays-Bas, à Steyl, un petit village près de Venlo, dans les diocèses de Roermond, et en 1875. Et ça s'est développé très, très, très vite, n'est-ce pas? Il y avait un missionnaire du Tyrol du Sud, Frena de Metz, qui a joint Arnold Janssen, qui était préparé pour la mission. Et après 2 ans, il est allé en Chine. Alors, la Chine est une mission privilégiée pour notre congrégation. Alors, la congrégation s'est développée très, très vite dans le monde entier. Et actuellement, on a 6000 membres, à peu près. Mais les vocations, c'est surtout en Asie.
Est-ce que ce sont tous des prêtres ou des laïcs qui sont associés en tant que membres?
Il y a des frères aussi, la plupart sont des pères. Mais le fondateur Arnold Janssen a aussi fondé 2 congrégations des sœurs, n'est-ce pas? Mm-hmm. Une congrégation missionnaire et une congrégation d'adoration.
Et Arnold Janssen a été canonisé par Jean-Paul II.
Comment?
Il a été canonisé par Jean-Paul II.
Bien sûr.
En 2003. Oui. Et la vocation première, c'est toujours l'enseignement.
Non, mission.
La mission
à Dextras, extérieur, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas su, comme les Français, que la France est un pays d'émission, n'est-ce pas? On a voulu accepter ça, que l'Allemagne aussi est un pays d'émission. Et comme ça, j'ai lu le livre de David Godin, La France, pays d'émission, et moi et les autres, mes confrères n'ont pas accepté ça. Mais actuellement, bien sûr, on s'est converti, on accepte que l'Allemagne est aussi un pays d'émission. Mais autrefois, seulement à l'extérieur, n'est-ce pas, dans les pays d'outre-mer.
Oui. À partir de quel moment est-ce que l'on a considéré l'Allemagne comme un pays de mission ?
C'est trop tard. Mon ordre, le père général n'a pas encore voulu, n'est-ce pas, et d'autres confrères. Moi, puisque j'ai lu les livres français et j'ai étudié la pastorale missionnaire à Paris, par exemple, et Michonneau, les missionnaires d'autres pères, moi, j'ai déjà prêché et dit que nous sommes un pays d'émission. Alors, dans les années 60, 68, même 70, on n'a pas encore accepté ça. Depuis une dizaine, 10, 12 ans, on a accepté ça.
Vous avez vécu une période intéressante parce qu'en 1950 a été proclamé le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Et vous avez vécu cette période très intensément et en Forêt-Noire, le culte de la Vierge est encore très enraciné. Yeah. Donc cette fête ou ce dogme a dû être accueilli avec beaucoup de jubilation.
Oui, mais c'est ça. Les images, les fresques et les statues, beaucoup, même à Mensenschwand, il y a l'Assomption de la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de lieux du pèlerinage où ce fait est très enraciné
et c'est une fête très ancienne. Pourquoi est-ce que le pape donc a-t-il proclamé ou les papes ont-ils tardé jusqu'au XXe siècle à proclamer ce dogme de la foi?
On peut aussi accepter le fait sans un dogme, n'est-ce pas? Sans ça, n'est-ce pas? En Allemagne, puisqu'on est aussi le pays de la réforme, n'est-ce pas? On n'a pas voulu offendre les protestants, n'est-ce pas? Par un dogme, n'est-ce pas? On ne peut accepter ça, parce qu'on a des documents de tous les siècles, on peut accepter sans avoir un dogme. Donc, en Allemagne, il y avait pas mal de gens qui étaient contraires au dogme. Mais le fait est accepté. Aussi des toutes sortes de chants, des cantiques.
Mais pour Hans Küng, ce théologien allemand de premier ordre, le culte de la Vierge reste une pierre d'achoppement dans les pourparlers œcuméniques.
Oui.
Sans doute, il a fallu peut-être mettre l'accent sur l'importance du culte de la Vierge. Alors, quel est votre programme pour le futur?
C'est les bons dieux qui allaient venir du programme. Je n'accepte pas ça. Alors, mon supérieur aussi parle de mon avenir, meine Zukunft. Non, je n'accepte pas ce terme. C'est bon dieu. Et si le supérieur est l'instrument, l'outil de la divine providence, ça va bien. Autrement, il faut résister. J'ai un esprit révolutionnaire, moi.
Oui, vous voulez peut-être parler un peu de cet orgue dans votre église à Mensenschwand qui nous permettra d'écouter dans quelques instants un autre morceau, cette fois-ci de Felix Mendelssohn Bartholdy. Cet orgue-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il s'adapte bien à cette architecture moderne de votre église.
Dans la Forêt-Noire, on vit du tourisme, n'est-ce pas? Le tourisme est le moyen principal pour les gens, n'est-ce pas? Alors, on a cru qu'il y avait, on a voulu créer un appel, une espèce de bain, Radonbad, alors il y a des hurons et dans la terre. Et puis, on a voulu créer une
l'uranium.
Une espèce, oui, c'est ça, une espèce espèce de... Alors on a cru qu'il y avait des hôtels et des gens qui viennent pour se radonbat, mais ça n'était pas réalisé.
Donc vous voulez établir un centre de cure.
Mais l'église était dans les années 60, 70, qu'on a créé cette grande église.
Ah oui, donc il faut le dire aux auditeurs, l'église d'origine à Menzenschwand était une toute petite église gothique, un magnifique retable de la période baroque. Et dans ces années dont vous parlez, des années 70, on voulait établir un centre de cure et qu'on pensait à un grand nombre de touristes et de malades aller venir. Et finalement, on a construit une très grande église qui, aujourd'hui, ne reçoit pas autant de paroissiens que l'on avait espéré. Mais on a fait construire un orgue exprès. Donc vous pouvez peut-être nous parler quelques mots. L'orgue, il a été construit.
Alors, moi, comme j'étais, on m'a appelé que c'était en 96 qu'on m'a appelé à Menzenschwand. Celui qui était responsable pour le personnel du diocèse. Et depuis ce temps-là, je suis là, mais on avait un instrument assez modeste, une espèce d'harmonium, quoi, n'est-ce pas? Et moi, j'ai voulu avoir une orgue. Alors, comme ça, le conseil paroissial, finalement, il était d'accord, parce qu'avec le grandissement des entités pastorales, n'est-ce pas, on n'avait plus la chance, n'est-ce pas, on était encore à des tambours comme paroisse. Alors, le conseil paroissial était pour, on avait de l'argent encore, ce qu'on appelle Rücklage en Allemagne.
Alors, oui, des réserves, vous avez des réserves.
C'est ça. Alors, comme ça, on a réalisé ça.
Voilà, on va écouter cet orgue qui a donc été construit très récemment. Albert Chalère, venu de la Forêt Noire, et Jean Mercier, ils sont dans le studio de Radio Grand-Ciel pour raconter la vie d'un prêtre et en suivant un peu le modèle de Franz Stock qu'il a connu très très tôt, dans les années 50, quand il était curé jeune curé près de Paderborn. Et le Père Chalère, qui est aussi musicien, qui aime bien jouer à la guitare, qui aime bien grimper à la montagne, on est bien placé en Forêt-Noire pour monter dans la montagne. Il s'est aussi, faute de pouvoir aller à l'étranger en tant que missionnaire, il s'est engagé dans le dialogue interreligieux.
C'est ça. Alors, je n'étais pas toujours seulement professeur, n'est-ce pas, mais aussi missionnaire, n'est-ce pas, membre d'une congrégation missionnaire. Et l'évêque Oscar Sayer de Fribourg m'a connu. Ils ont été ensemble pendant quelques années. Quand il était évêque, il m'a appelé à être chef des activités missionnaires dans les diocèses de Freiburg. Et comme ça, aussi, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle Missio en Allemagne. Et comme ça, j'ai pu participer au voyage à l'Inde, par exemple. Et comme ça, j'étais 5 fois à l'Inde, n'est-ce pas? On a beaucoup de missions à l'Inde. Et vous voyez, les missionnaires étrangers n'étaient plus acceptés en Inde, n'est-ce pas? Et comme ça, nous, c'était la fin du monde. Mais à ce temps-là, depuis ce temps-là, depuis 52, on a aussi recruté des gens, des jeunes en Inde. On a maintenant 4 provinces. Les jésuites ont plus de 10 provinces de l'ordre. En Inde, il y a beaucoup de vocations. Et comme ça, je me suis occupé de l'hindouisme et du bouddhisme aussi. J'ai pratiqué la méditation à la manière des zen, par exemple. Il y a aussi des gens qui nous ont enseigné cette méthode, n'est-ce pas? Et comme ça, j'ai fait beaucoup de conférences dans les diocèses de Freiburg spécialement. Et aussi, j'étais membre de la société chrétien-islamique de Pforzheim, n'est-ce pas? Et comme ça aussi,
une ville au nord de la forêt noire.
Oui, c'est ça. Alors comme ça aussi, j'ai pris part dans les activités de cette Gesellschaft, société chrétien-islamique, n'est-ce pas?
Pforzheim est très connue dans le passé. Oui. Pardon. Pour l'horlogerie, et vous m'avez dit, comme vous connaissez bien cette ville, dans le nord de la forêt noire, il y a maintenant 3 mosquées dans cette ville qui a à peu près 100 000 habitants. C'est cela, oui. Il y a tout. Mmh. C'est une vie très riche. Et comme vous vous êtes occupé de beaucoup de jeunes, vous connaissez l'actuel archevêque de Fribourg.
Oui, c'est ça.
Stefan Burg.
Oui, c'est ça.
Qui a à peine 50 ans.
Oui, 58 ans.
Comment est-ce que vous l'avez connu? Oui.
Voyez, c'est une histoire un peu très longue, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un prêtre, un curé, dans la forêt noire, dans un petit village, Rüttenbach, et il était chasseur alpin, comme moi aussi, chasseur alpin, et il a souffert vers la fin de la guerre mondiale, et son frère était membre de la congrégation
de
Lichtenberg, et il était tué d'une façon très, très, très cruelle. Il a été en Russie. Mm. Et pour, d'abord, ce père, Karl avait promis une chapelle dans les Alpes, n'est-ce pas, à l'altitude de 1500 mètres. Et une chapelle, il a créé cette chapelle.
En mémoire de son frère.
Il est né en 1913. Alors, quand il avait l'âge de 70 ans, il a renoncé à dire la messe là-haut, à la fête de l'Assomption. Il a donné cette fonction à Stefan Burger, qui était curé dans une paroisse, mais Stefan Burger était appelé pour être chef d'un comité de l'Église. Et puis, maintenant, il est évêque, n'est-ce pas? Et chaque année, et moi aussi, comme j'étais chasseur alpin, j'ai connu les frères Karl Kari, qui a fondé la chapelle, et j'étais toujours là-haut, à la fête de l'Assomption.
Alors, il faut rappeler aux auditeurs de Radio Conseil que la fête de l'Assomption n'est plus un jour férié en Allemagne, oui, depuis un certain nombre d'années, mais c'est resté une fête tellement ancrée dans la population, oui, qu'il y a de processions très importantes. Les églises, oui, sont vraiment pleines le jour, oui, du 15 août.
C'est ça.
A gardé cette belle fête, oui, avec beaucoup d'autres traditions autour. Alors, Fribourg est le diocèse qui s'est occupé du séminaire des Barbelés à Chartres. Et là aussi, nous avons ce lien très étroit qui vous lie à travers votre vie aussi, de prêtre à la vie
aussi,
de Franz
Stolz. Il y a aussi l'évêque... Il y a aussi l'évêque... qui avait une maladie. Il était séminariste du Barbelé, Émile Steele. Il est aussi fait prêtre en 51, et moi, je connais très bien, mais il ne peut plus parler, mais il a une maladie.
Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup, le père Adalbert Chalas. Merci Jean Mercier, merci et bonne journée, chers auditeurs.